De nombreux DVD sont sortis au mois d'avril, mais l'événement pour Eastasia, c'est le coffret Ozu qu'édite Carlotta. Donc il y a plus de, enfin il y a exactement même 14 films qui sont regroupés dans un coffret qui fait écho aussi à une intégrale à la Cinémathèque qui a lieu donc du 23 avril au 26 mai. Et en plus, Bonjour et Fleur d'automne sortent en salle à la fin du mois d'avril. Donc là, vous n'avez aucune excuse pour ne pas voir du Ozu en ce mois d'avril et au début du mois de mai. Est-ce que Justin, tu peux un peu nous parler de ce coffret donc qu'édite Carlotta ?
Oui, tout à fait. Donc en fait, c'est un coffret qui est une sorte de repackaging en fait de tout ce que Carlotta a pu sortir sur Ozu précédemment. Vu qu'au milieu des années 2000, ils avaient sorti deux coffrets sur toute la filmographie noir et blanc d'Ozu, donc que ce soit les films un peu plus méconnus du début des années 30, qui est le plus connu dans le lot, c'était Ghost de Tokyo, mais sinon c'était une partie de sa filmographie assez méconnue. Et puis ensuite toute la partie qu'il a fait connaître en France, donc au milieu, fin des années 40, donc a été précoce, Le goût du thé vert, enfin tous ces grands films qui l'ont fait connaître à la fin qui sont ressortis en salle à la fin des années 70, début 80, et donc qui ont amené une reconnaissance tardive pour Ozu en France, qui s'est confirmée, qui s'est maintenue depuis. Et donc voilà, le coffret, c'est un repackaging donc de ces deux coffrets qui étaient épuisés, qui étaient sortis au milieu des années 2000, plus d'autres films qui étaient ressortis en salle entre-temps, comme Le Fils Unique. Et donc voilà, c'est pour ceux qui avaient raté, qui ne trouvaient plus le coffret à l'époque, c'est matière à voir l'intégrale avec 14 films, et justement en écho avec la rétro qui va avoir prochainement à la Cinémathèque, ou qui a déjà commencé sans doute.
Absolument, oui. Et Le Fils Unique est aussi disponible en Blu-ray, ainsi que Voyage à Tokyo, en effet. Donc les deux sont édités dans des versions complètement restaurées. Pareil pour Bonjour, je l'ai revu en salle. Hein. Effectivement, notamment les couleurs sont vraiment magnifiques. Hein. Donc ça vaut le coup d'une redécouverte complète du cinéma d'Ozu. L'autre événement, ou pas, du mois d'avril, c'est la sortie du 9 avril d'un film coréen qui s'appelle Pandémie, donc qui est réalisé par Kim Sung-soo, que Yannick, tu as vu, et que tu as plutôt apprécié malgré quelques réticences que tu peux avoir. Est-ce que tu pourrais nous le présenter, nous dire à peu près de quoi ça parle, même si là aussi le titre est plutôt significatif, et nous dire ce que tu en as pensé ?
Oui, alors effectivement, avec le titre, on sait exactement dans quoi on met les pieds et on sait exactement ce qui va se passer d'un bout à l'autre. C'est tout simplement une maladie très dangereuse. C'est une souche mutante de la grippe aviaire qui se propage dans l'air et puis qui attaque les hommes, donc qui se répand dans une banlieue de Séoul. Le gouvernement va devoir lutter contre ça. Alors, personnellement, j'ai plutôt apprécié la partie à partir du moment où tous les malades se retrouvent dans des camps de concentration. J'ai beaucoup pensé au film Couvre-feu en version encore plus glauque, encore plus dangereuse, alors le film a l'intelligence de nous faire découvrir ces camps par les yeux d'un des personnages principaux qui est donc un secouriste qui se retrouve là-dedans, mais qui est au début dans la partie des non-infectés puisqu'ils ont séparé les deux, et qui va découvrir au fur et à mesure ce qu'on fait des personnes malades, et on se retrouve avec des visions d'horreur quand même assez tétanisantes, vraiment quelque chose de glauque, d'assez horrible sur la manière de contenir cette pandémie. Mais bon, pour le reste, le film n'est pas non plus sensationnel, avec tout un début euh, franchement lourdingue, des personnages caricaturaux, mais quelque chose d'assez insupportable. Et puis, bien évidemment, les Américains sont des enculés finis qui veulent lâcher des bombes sur les infectés pour être tranquilles. Ça m'a un peu fait penser à la fin du Retour des morts-vivants, en fait. Heureusement, le président coréen est là pour arrêter les Américains et puis sauver la Corée de la doctrine capitaliste.
C'est vrai qu'il y a quand même ce plan hallucinant avec le président américain et Snyder. Donc c'est le président coréen et Snyder, c'est l'américain moustachu. Ouais. On ne sait pas pourquoi il est là, d'ailleurs il arrive, il y a le président qui va faire « on va faire ça pour sauver les gens ». Et t'as Snyder qui débarque derrière qui dit « no, you can't do this ».
C'est assez drôle parce que le moment où il arrive, t'as l'impression qu'il était là depuis le début, sauf qu'on l'a pas vu. Quoi. C'est
pas ça, il sort de l'ombre.
Ouais, il sort de l'ombre.
Ils en parlent quand même un petit peu puisqu'il a demandé, ils ont demandé de l'aide aux États-Unis pour avoir des spécialistes pour gérer ça. Et on peut comprendre aussi que les Américains pensent que s'ils laissent la propagation de la maladie s'étendre à travers tout Séoul, ça puisse devenir dangereux. Enfin, c'est pas pour ça que ça va atteindre les États-Unis, le reste du monde non plus, faut pas déconner. Mais c'est vraiment je veux dire, je comprends, la Corée et les Ricains, ils s'apprécient moyennement, et puis le cinéma a toujours été une bonne manière de régler ses comptes. Enfin, franchement, j'ai pensé à la doctrine politique de Windfighters, quoi.
Tout à fait. Ça m'a vraiment rappelé le même. Ça m'a vraiment rappelé le film, en fait.
Et même on se fait moins chier, quand même. Hein.
On se fait moins chier, c'est vrai. Mais même au niveau des deux personnages principaux, donc le pompier je sais pas ce qu'elle fait.
Elle est scientifique, apparemment.
Elle est scientifique, oui, elle est médecin. Oui, c'est vrai, elle est médecin. Ça m'a fait penser à la rencontre, en fait, des deux personnages principaux dans Windfighters.
Oui,
bon, on n'a pas les Nord-Coréens, en fait.
La même séquence, hein.
Oui, on n'a pas les Nord-Coréens, en fait, dans Pandémie. C'est déjà ça.
C'est vrai que ça reste à l'intérieur de la Corée. Moi, ce que j'ai trouvé plutôt intéressant dans le film... c'est en fait le sous-texte qui est bien inconscient, j'ai l'impression, de la part du réalisateur, mais qui indique vraiment en tout cas la peur de la dictature militaire que peut encore avoir la Corée de nos jours. On est dans une situation de pandémie et les résolutions du gouvernement, les premières, c'est de couper toute communication. Donc comme au Moyen-Orient quand il y a des insurrections, ils disent on va couper les réseaux sociaux, on va couper le téléphone, plus personne ne discute. Les mesures sont assez drastiques, ça commence dans une scène où il y a une... Voilà, ça se passe dans un supermarché, comme dans les films américains, les gens commencent à prendre les dernières bouteilles d'eau, à s'accrocher aux derniers trucs qu'ils peuvent avoir. Et il y a un plan de coupe, on nous dit, la police intervient. Et là, on voit pas, comme dans un film américain, quelques petits flics qui essayent de contrôler la situation. On voit juste une armée de CRS en Robocop qui sont en train de tabasser les gens qui sont tués, quoi, pour le
truc sur... C'est un plan de coupe.
Enfin, c'est juste, tout le monde est en train de piller les choses. On dit, il y a une voix off qui dit, la police intervient, et hop, tu vois, le plan suivant avec des matraquages de partout.
Ben, ça se poursuit un peu après dans les camps, c'est vraiment le côté, à partir du moment où on donne du pouvoir à quelques personnes, ça dégénère tout de suite. C'est traité avec des gros sabots, mais cette séquence assez hallucinante au début du camp où t'as quelques personnes qui disent en gros nous on est riches, on est des hommes d'affaires, on n'a rien à foutre dans des tentes avec des pauvres, en fait. Et là t'as un psychopathe qui commence à les tabasser à coups de tonfa.
Oui, mais c'est un militaire, justement, c'est un militaire, et c'est ça qui est assez intéressant, c'est que le fait que le pouvoir militaire, effectivement, il y a toujours ce risque d'une dictature militaire dès qu'il y a quelque chose qui se passe en Corée. Et finalement, le fait qu'on voit dans les films populaires comme ça, le fait que la démocratie est finalement assez, assez tangente. Et encore
tous les films coréens sont traversés par cette peur.
Oui, mais surtout qu'en ce moment, la présidente est quand même la fille d'un militaire qui a instauré la dictature militaire en Corée.
Oui, il y a eu d'ailleurs beaucoup
C'est pas anodin non plus. Le rapport avec les Américains, il est assez ambivalent. Ils les aiment pas, mais en même temps, ils ont besoin d'eux. Ils sont toujours présents sur le territoire, mais ils n'ont pas vraiment envie qu'ils soient présents. Donc ça se ressent dans le film, même si c'est traité quand même très lourdement.
Bah, après, c'est quand même un gros navet, quoi. C'est un peu ça, c'est comme dans les films catastrophes américains des années 80. Ça dénote d'une certaine vision des États-Unis, mais les films sont insupportables à regarder, quoi.
Ce que j'aime, c'est effectivement un mauvais film, on est bien d'accord, mais j'ai trouvé, moi, intéressant la manière de traiter une pandémie, en fait, comme une invasion de zombies. Parce que il y a cette scène où tous les infectés, pas infectés, qui débarquent pour franchir Séoul. T'as vraiment cette espèce d'invasion de zombies qui essaye de rentrer dans le bunker des derniers survivants, quoi. Avec cette ligne, bon, après il y a le côté, il y a la ligne, évidemment c'est la gamine qui va la franchir au ralenti.
La gamine est d'ailleurs insupportable, en fait.
Magnifique, cette séquence.
La gamine passe son temps à se paumer.
Oui.
C'est le fil conducteur, ouais, du film, c'est retrouvons la gamine, elle a encore disparu.
Non, mais oui, juste... en fait, c'est Zelda.
Ouais, c'est ça.
C'est insupportable.
Non, mais cette séquence, pour revenir à cette séquence, non, mais quand elle répète 50 fois « Ne tuez pas ma maman !» ralenti avec les cris et tout le monde qui la regarde « Oh, il faut la tuer !» comme ça, non mais horrible, quoi.
C'est là que les militaires coréens, ouais, prennent quand même conscience que c'est pas bien de tirer sur des enfants.
Ah non, il y en a un. Il y en a quand même un. Celui dont on parlait tout à l'heure, qui était dans le camp, qui commençait à tabasser tout le monde, c'est lui, il veut buter la fille, il en a rien à péter. Il est dans son rôle.
Et il a reçu les ordres.
Voilà, il a reçu, il veut buter, s'en bat les couilles.
Il y a un truc quand même, c'est que oui, il y a cette peur de la dictature qui est là, mais d'un autre côté, tant que le président aura pas dit merde aux ricains, je veux dire, on leur a donné l'ordre de tirer sur les civils, il y en a pas un qui discute, quoi.
En effet.
Ils sont coréens. Ouais. Ils obéissent aux ordres.
Voilà.
Non, mais faut reconnaître, il y a quand même certains plans aériens qui sont quand même pas mal foutus. Je parle surtout du plan où, bon, je vais pas trop spoiler, mais à un moment il y a une espèce de grand cimetière géant avec plein de grues qui déplacent les corps,
ouais,
qui ont été infectés, et donc qui est dans un stade d'ailleurs de foot ou je sais pas quoi. Et je trouve quand même que bon, c'est quand même bien foutu, quoi. C'est assez impressionnant.
C'est vrai qu'il y a des similitudes, je pense notamment avec World War Z. Donc dans le film, la pandémie est traitée à peu près de la même façon, effectivement, que l'invasion de zombies. On cherche le patient zéro aussi, enfin il y a toute une histoire comme ça. J'avais pas trop aimé World War Z, mais c'était quand même beaucoup mieux.
C'est beaucoup mieux rythmé quand même.
Franchement, je me suis ennuyé pendant la pandémie. Ouais, j'ai trouvé le temps long.
Non, c'est pas nul.
J'ai trouvé vraiment le temps long.
Non, je trouve que. Je vais pas en parler 300 ans, mais The World War Z, ce qui était bien, c'est que au niveau du pur divertissement, c'était vraiment bien rythmé, bien, enfin ça allait à 200 à l'heure, il y avait pas de, voilà, quand on avait pour notre argent, on respirait à peine, et on allait du début à la fin pour, hein,
c'est une pub pour le shampoing, ou pour Pepsi. La scène où Brad Pitt il va chercher son Pepsi au distributeur, mais on a pas le droit de faire ça, quoi. Pas le droit.
Mais le reste est efficace, quoi.
C'est efficace.
C'est aussi la raison pour laquelle je pense qu'un film comme Pandémie, qui a fait quoi 6 millions d'entrées en Corée, enfin qui a extrêmement bien marché en tout cas, donc ne peut pas sortir vraiment en France. On n'est pas du tout dans les mêmes codes. Ça reprend les codes du blockbuster américain. C'est vrai que pour moi, on est plus dans un navet du film catastrophe des années 80.
C'est Asylum, quoi. C'est le film Asylum.
Ouais, mais on sent l'argent, par contre. Hein. Ouais. Il y a du budget.
D'accord. Comme disait, les plans aériens sont bien foutus. Pareil, le plan qui remonte la rivière.
Honnêtement, toute la partie dans le camp de réfugiés, enfin d'infectés, moi je la trouve vraiment intéressante, avec cette découverte, cette évolution dans l'horreur. Avec la mère qui essaye de protéger sa fille, de cacher son infection, il y a vraiment des trucs intéressants. Bon, le problème, c'est que c'est 20 minutes de film, quoi.
Voilà, si je comprends bien, on est encore dans cette mouvance de gros blockbuster coréen, avec la grosse musique symphonique derrière, les ralentis, les trucs lacrymo.
T'as tout à fait vu le film, alors.
C'est comme Faraway, par exemple.
Ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est que le scénario est terriblement mal écrit, juste au niveau de la cohérence. C'est-à-dire que les personnages, donc ils sont supposés être je ne sais pas combien de milliers dans cette ville, et les personnages principaux se rencontrent, mais... par la magie, quoi.
Ils se voient tout le temps.
Ouais, ils se voient tout le temps. Ils se re-rencontrent alors qu'il y a des milliers de personnes. Mais bon, on se demande comment, quoi.
C'est propre à tous les blocs.
Ouais, non, mais là, c'est vraiment abusé, là, par contre, dans le magasin.
C'est effectivement exagéré, mais on voit ça dans n'importe quel film. Non, ça m'a pas particulièrement choqué.
Ça m'a un peu choqué.
Brad Pitt, il va quand même à Jérusalem et après, il revient à machin. Et il y a aussi ces jeux de rencontres, etc. Mmh. Quoi, je sais pas. Ou Jack Bauer, il va je sais pas où, mais,
ah oui,
mais il rencontre tout le monde. Quoi. Donc, je sais pas, bon. Ça c'est propre à tous les...
En tout cas, si vous avez aimé World War Z, vous n'aimerez peut-être pas Pandémie, mais si vous voulez vous marrer, vous pouvez éventuellement voir le film qui est sorti donc, en DVD depuis le 9 avril. On va passer très vite sur les deux dernières sorties du mois d'avril, qui sortent le 30 avril, qui sont sorties le 30 avril, parce que ce sont des films qui sont sortis en salle et dont on a c'est beaucoup bon, parlé. Donc il s'agit d'Albator, donc qui sort dans une édition collector. Mmh. Est-ce que quelqu'un veut dire un mot sur le film ?
Bah moi je voudrais juste rajouter que Albator pourrait avoir une sortie salle en Belgique.
Formidable.
Voilà.
Bon bah enfin, j'ai envie de dire pour oui. Je croyais que c'était non bah oui, non c'était Snowpiercer donc qui sort là alors qu'il est sorti en DVD en France et donc
il était au BIF d'ailleurs. Albator, c'est ça.
Albator était au BIF, ouais.
Albator en ouverture, ouais.
OK. Justin, sur Albator, non. Personne ne veut parler d'Albator, très bien.
Bah, lisez la critique sur le site.
Lisez la critique, on en reparlera de toute façon sur notre podcast, sur la nostalgie et les séries d'enfance pour cet été. Et le deuxième film, c'est Tel père, tel fils, donc qui sort également le 30 avril, le dernier film de Kore-eda. Jérémy, si tu veux dire un mot rapide sur un film dont on a beaucoup parlé.
C'est un Kore-eda qui peut sembler mineur, mais qui est particulièrement émouvant. Et ouais, c'est un petit film, je pense, qui va révéler ses trésors un peu plus tard et qu'on va réévaluer parce que c'est un film que j'ai vu à Cannes l'année dernière, mais qui est encore là, qui est encore présent. J'ai encore un vif souvenir du film, donc c'est assez bon signe. Donc si vous l'avez pas vu, bah allez-y. Puis lisez ma critique aussi sur le site. C'est pas mal.
Plus vif souvenir que pour les 47 renards.
Oui,
c'est d'accord.
Et pourtant 47 renards, je l'ai vu il y a un mois, quoi. Mais
très bien. Voilà, bah on a parlé donc des trois films qui sont sortis au mois d'avril, des trois films asiatiques. On va maintenant parler des films qui vont sortir au mois de mai, des événements du mois de mai.